20h, 21h.
Allô l'imam, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ravi de vous retrouver, allô l'imam, tous les jours en direct pendant le mois du Ramadan, avec un numéro de téléphone qui vous sert pour appeler l'imam Abdelali Imamoun. C'est pour ça qu'il s'appelle allô l'imam, parce qu'il faut l'appeler 01 53 48 3000. Bonsoir Imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord à toi Philippe, et puis à notre invité exceptionnel ce soir, c'est Boubkar, Abou Bakr Ajdir, notre spécialiste dans la finance islamique. Donc ce soir on va surtout parler finance islamique, tout ce qui est transactions compatibles avec l'islam, avec la charia, et celles qui ne le sont pas aussi, hein. Voilà, je te laisse continuer.
Alors, depuis 2005, vous vous intéressez à la finance islamique et à son développement dans le monde et particulièrement en France. Quand on regarde les sondages, les musulmans sont très largement favorables à la finance islamique. Et pourtant, quand on parle d'usage, ils sont très peu à l'utiliser. Pourquoi ?
Bonsoir, salam alaikum. Alors, effectivement, c'est que sur le plan des statistiques, quand on pose la question, est-ce que la finance islamique vous intéresse ? Forcément, tout le monde dit oui.
Alors là, voilà,
tout naturellement, on va naturellement vers ce qui nous ressemble, quoi. C'est islamique, alors oui. Et après, en termes de consommation de produits financiers éthiques islamiques, là, ça change un petit peu. Bah, pourquoi ? Peut-être parce que les gens ne connaissent pas tout simplement ce que dit la religion musulmane en matière de finance. Peut-être que historiquement, alors c'est peut-être particulier aux maghrébins essentiellement, parce que moi je suis moi-même maghrébin, donc ça je l'ai observé ici et dans d'autres régions, c'est qu'on a peut-être plus grandi avec nos parents nous ont beaucoup transmis tout ce qui était relatif au ibadat, l'adoration, au rituel, au culte. Et peut-être que les mu'amalat, on n'a pas trop baigné en fait dans l'éducation par rapport aux mu'amalat, donc à toutes les transactions. Et donc ce qui peut expliquer peut-être pourquoi il y a une grosse incompréhension encore sur ce qu'est réellement la finance islamique ou qu'est-ce qu'un produit financier islamique.
Et puis il y avait quand même les anciennes générations qui n'avaient pas la même culture de consommation que nous. Peut-être que nos parents, bah, ils dépensaient, ils achetaient quelque chose quand ils avaient économisé, quand ils avaient l'argent pour le faire. Après, ça c'est compliqué parce que finalement, les gens ont plus eu cette culture de l'endettement et de l'emprunt pour acheter.
Ah oui, alors là, effectivement, ça aussi, historiquement, on pourrait faire cette analyse-là. Maintenant, les besoins de consommation aussi ont explosé. Les coûts aussi, quand on va acheter une maison, on va acheter une voiture, c'est pas du tout comme avant. Et forcément, on a besoin d'être accompagné par un établissement ou par le bailleur de fonds, celui qui a l'argent. Maintenant, comment ? C'est ce qu'on va essayer de développer.
On va vous expliquer ce soir et on va essayer de prendre en majorité des questions qui concernent les besoins de financement, puisque vous en avez été très nombreux à poser des questions à l'imam Abdelali. C'est pour ça qu'on fait appel à un spécialiste. Donc, essayez de poser des questions relatives ce soir au financement, que ce soit des études des enfants, de votre voiture, de votre maison, et de voir quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, quels sont les produits qui sont proposés en termes de finance islamique. Alors, on dit aujourd'hui que c'est Londres, la capitale occidentale de la finance islamique. Pourquoi est-ce que finalement c'est à Londres que tout se développe et pas à Paris ?
Alors, Londres, les Anglais ont une approche un peu différente en matière de finance. Les Anglais, quand vous dites Islamic Finance, le mot qui résonne dans leur tête, c'est finance.
Pas islamique.
C'est pas islamique, alors que...
Ils font du business, en fait.
L'argent, c'est pas grave.
La religion...
Il a pas d'odeur, l'argent n'a pas d'odeur.
Donc, si vous voulez, les Anglais, ça fait presque 30 ans qu'il y a une volonté à la fois politique et d'intégrer la finance islamique comme une stratégie, comme une composante comme n'importe laquelle autre dans le secteur de la finance. Et donc, effectivement, Londres est le leader du monde occidental qui aspire même à être le leader du monde en matière de finance islamique. Il y a quelques années encore, lorsque David Cameron était Premier ministre anglais, il a fait une déclaration assez importante en disant qu'il n'y a aucune raison pour que l'Angleterre ne soit pas au même niveau que Dubaï ou Kuala Lumpur, qui sont les deux places.
Est-ce que c'est vrai que c'est 300 milliards de dollars que constitue aujourd'hui la finance
islamique ? C'est 3 000 milliards, voilà. C'est à peu près ce que représente la taille des encours, de ce que possède l'ensemble des acteurs de la finance islamique. Voilà, c'est 3 000 milliards avec des perspectives d'évolution.
Et mais 3 000 milliards qui sont placés dans des produits islamiques ou c'est de l'argent qui pourrait être dépensé ?
Non, c'est ce que détiennent, c'est les actifs, c'est ce que détiennent les acteurs de la finance islamique. C'est la valeur de ce que détiennent les acteurs
et
de la finance
islamique. Et qui font l'objet de transactions halal.
Exactement, d'accord. Exactement.
Alors pour comparer, parce que là, 3 000 milliards...
C'est une goutte d'eau dans l'océan du monde de la finance.
Il faut le comparer à ce que...
Voilà. Ça représente à peine 3% du monde de la finance globale.
3%, c'est pas une goutte d'eau, c'est quand même déjà significatif.
Oui, si vous voulez, ce qui est intéressant plutôt de relever, c'est que c'est un secteur qui est en pleine croissance depuis une vingtaine d'années, croissance à deux chiffres. J'ai un chiffre récent, de 2016, À peu près 16% de croissance annuelle.
Mashallah.
Donc c'est ça bien. Reste très intéressant par rapport à la finance classique qui est plutôt dans, on va dire, dans une situation de déclin plus que dans une situation de croissance.
Alors, moi je voudrais expliquer donc d'abord aux auditeurs pourquoi on parle de finance islamique, parce que tout simplement il y a énormément de versets dans le Coran qui imposent aux musulmans de faire attention à comment ils dépensent leur argent et comment ils gagnent leur argent. Hein, dans le Coran, il est dit dans Fisourat. Sourate An-Nisa, ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ô croyants, il ne vous est pas permis de consommer l'argent les uns des autres bil batil, c'est-à-dire injustement, hein, sauf si c'est par une transaction commerciale dont vous êtes tous les deux consentants. Illa an takuna tijaratan an taradin baynakum, entre vous. Donc à partir du moment où il y a transaction commerciale, eh bien on ne peut pas parler de akl al mal bil batil. On ne peut pas appeler de suht, puisque le terme effectivement la takulu wa aklihim as-suht, as-suht wa akl al mal bil batil, c'est une autre expression coranique pour parler de cette manière de consommer, de s'accaparer les biens des autres de manière injuste. Eh bien la manière juste de gagner sa vie et de gagner de l'argent, c'est par le commerce. Le Dieu dans le Coran, il est dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Dieu a autorisé la transaction commerciale et a proscrit riba, c'est-à-dire le fait de gagner de l'argent par de l'argent, prêter de l'argent pour récupérer, épargner, puisque épargner ça s'appelle, c'est purement et simplement prêter, confier de l'argent à quelqu'un ou à un organisme bancaire et demander en contrepartie non pas des bénéfices qui sont liés à un investissement de votre argent dans des sociétés, etc., mais bien d'un intérêt fixe. Un intérêt fixe, c'est-à-dire 5%, 3%, 2%. Moi, je m'en fous de ce que tu fais de mon argent. Ce que je veux, c'est je veux mon pourcentage, mes intérêts. Et c'est ce qui est proscrit et illicite en islam. C'est akl al-riba qui, je le rappelle, est un des 7 péchés capitaux, un des 7 grands péchés de l'islam qu'on appelle en arabe al-kaba'ir. Hein, le Coran, le professeur Salam, quand on lui pose la question « Quels sont les 7 péchés ?» Il dit « Ash-shirku billah, le polythéisme, wa uquq al-walidain, le non-respect des parents, wa as-sihr, en troisième, donc la sorcellerie vient en troisième position, et directement en quatrième position, akl al-riba. » Et là, il y a effectivement une sagesse divine, parce qu'on dit « Ouais, mais il n'y a rien, moi je suis à la banque, je prends prendre de l'argent, il est où le problème, il est où le mal ?» Peut-être tu as des choses à dire sur ce sujet-là. Où est-ce qu'il est le mal pour celui qui vient aller à la banque chercher un emprunt pour acheter une maison, il est où le mal? Parce que beaucoup nous appellent, mais il est où le mal? Où est le laïb? Où est le mouchkil?
Alors,
on a tué personne, on n'a fait de mal à personne.
Le mal, c'est un peu le problème du riba, c'est ce que j'appelle moi le ribagisme passif. C'est un peu comme le tabagisme passif. Le ribagisme passif. Pendant des années, on pensait que celui qui ne fumait pas, il était à l'abri, alors que les gens qui fument autour de lui, finalement, aujourd'hui, on sait que ça tue. Le riba, c'est à peu près pareil. On a l'impression qu'en fait, c'est pas nous qui prenons les intérêts, c'est la banque. Mais quand on analyse le système derrière et la crise financière qu'on a traversée ces 10 dernières années,
qui revient grave.
Ah ouais, c'est vrai.
La crise financière.
Avec le subprime et tout ça.
Les subprimes, c'est un panaché de produits toxiques. C'est un mélange de riba, de spéculation, de choses qui sont strictement interdites.
Et qui reposent sur rien du tout.
C'est la fameuse titrisation des contrats.
On titrise, en fait, ce qu'on appelle la titrisation. On découpe de la dette en titres, donc en papier, qu'on revend sur les marchés financiers.
Et qu'on revend, et que l'autre revend, et que l'autre revend. Chacun prend son petit bout de bénéfice.
Voilà, donc si vous voulez, le riba, la crise financière, en tout cas, a démontré ces 10 dernières années ô combien le système basé sur l'intérêt est problématique. D'ailleurs, de nombreux non-musulmans, eux aussi, sont en train de remettre en cause ce système-là.
Alors, riba, c'est quoi précisément?
Alors, riba vient du terme arba, qui veut dire s'accroître, qu'on pourrait traduire dans ce qui nous concerne aujourd'hui, comme étant l'intérêt. Alors, mais il existe effectivement, c'est peut-être important de le préciser aux auditeurs, plusieurs formes de riba. Il y a le riba qu'on retrouve dans les transactions de prêts, qu'on appelle également riba al-qurud, le riba des prêts, qu'on appelle également riba al-Qur'an, parce que c'est cette interdiction-là dont il est fait référence dans le Coran, et qu'on appelle également le riba al-Nasi, le riba du temps.
Parce qu'il y a riba al-Fadl et riba al-Nasi.
Voilà. Donc, pour rester sur le riba du prêt, qui est le riba que tout le monde, le plus répandu, on va dire, c'est tout surplus qui est versé lors d'un contrat de prêt et qui est conditionné de façon explicite ou implicite dans le contrat de prêt. Je te prête 1000 à condition que tu me rends 1200. Donc les 200 là, c'est du riba.
Parce que j'ai la rétribution que enfin de mon argent.
C'est la rétribution de mon argent dans un contrat de prêt. D'accord. C'est fondamental d'être précis sur ce sujet-là.
Alors, c'est pas un contrat de commerce.
C'est pas un contrat
de vente.
Parce
que si ça avait été un contrat de commerce où il y a une marchandise qui est au milieu de la...
Voilà. C'est complètement différent.
Voilà. Moi, je vais à Rungis, j'achète un kilo de pommes de terre, le kilo de pommes de terre à 1 euro. Je le revends sur le marché à 1,50 euro ou 2 euros. C'est autorisé.
Ça, c'est du bay.
Ça, c'est du commerce.
Alors que
c'est
si halal. Je prête, à condition que l'on me rend 1200, là, le surplus, c'est
que de l'argent. Le riba, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de marchandise. C'est l'argent elle-même qui est la marchandise. Ou voilà, le temps, puisque c'est un petit peu...
Bah, c'est en contrepartie du temps. C'est-à-dire, je te prête 1000 à condition que tu me rends 1200 dans un an.
Non. En général, c'est souvent, bien sûr, échelonné. C'est une vente, du moins, un prêt à terme.
Voilà. Et puis, on a aussi plusieurs textes dans les sources qui disent notamment « Tout prêt, kullu qard jarra naf'an fahuwa riba. » Tout prêt qui donne un avantage est considéré comme du riba. Je te prête 1000 à condition... que toi, tu me prêtes ta voiture pendant 3 semaines, donc j'exploite un peu cette position de prêteur pour tirer un avantage qui est celui d'avoir une voiture à ma disposition pendant 3 semaines.
Alors, c'est aussi riba. C'est aussi riba.
Par contre, si je te prête 1000, et dans le contrat de prêt, je te dis tu me rends 1000, mais toi, un an plus tard, tu me rends 1100, à ta discrétion, je ne l'ai pas mentionné, c'est un cadeau. Là, ce n'est pas du riba. C'est pour ça que c'est très important de bien cerner la définition le contrat de prêt. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les contrats de prêt que nous proposent les banques classiques sont des contrats dits ribaoui. C'est un contrat de prêt. Il ne faut pas aussi toujours traduire comme riba comme étant l'usure. Parce que dans le droit français...
On a une histoire d'Abu Hanifa qui montre le wara'a, c'est sa grande piété à ne pas consommer le haram. Quand il va chez quelqu'un pour se faire rembourser de l'argent qu'il a prêté, la personne lui propose à manger, il dit non. Si tu me rends mon argent plus la nourriture que tu veux me proposer, c'est de riba. Donc il refuse. Il a dit je reviendrai plus tard pour accepter ton hospitalité.
Pour pas associer cette hospitalité au service rendu qui a été celui de prêter. Donc voilà. Puis une autre forme de riba qui a été mentionnée par l'imam, c'est riba al-fadl, qui n'est pas le riba qu'on retrouve dans le prêt,
mais dans les trocs.
Voilà, qu'on appelle donc le riba du troc ou bien riba al-buyu'a. On l'appelle également riba sunna parce que l'interdiction elle est dans un hadith du prophète qui concerne les échanges de certaines matières comme l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, les dates contre les dates, le blé contre le blé. Quand ces matières
al-hinta wal-hinta wal-fiddatu bil-fiddu wadh-dhahabu bil-dhahab yadan bi-yad mithlan bi-mithl wa man zada aw istazada faqad arba.
Exactement, donc c'est l'or contre l'or à quantité égale et à échange immédiat.
Un échange immédiat, c'est-à-dire main à main, c'est yad en biyad, immédiat. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, quand quelqu'un fait une transaction de sarf, le fameux...
Le change, quand j'échange des dollars contre des zéros...
Voilà, il faut que ça se fasse yad biyad, main à main. On ne peut pas payer en dollars tout de suite pour être payé en change le lendemain ou le surlendemain. Il faut vraiment que ce soit yad en biyad. Parce qu'effectivement, il suffit que le taux monte ou baisse.
Il peut y avoir de la spéculation, effectivement.
Effectivement, il peut y avoir même des tensions. Puisque le gars, il dit, est-ce que tu me payes par rapport au prix du dollar d'hier ou du dollar aujourd'hui?
Ça, c'est l'avis majoritaire, effectivement, qui dit que l'échange de devises doit se faire immédiatement.
Voilà. Concrètement, quelqu'un qui veut faire usage et faire appel à la finance islamique en France, aujourd'hui, en 2018, il va où, cette personne?
Alors, je suis pas représentant de qu'un des banques.
Moi, par exemple, je veux acheter quelque chose et on va dire dans les règles, je me tourne vers où? Est-ce que je peux aller vers ma banque?
Alors, pas n'importe laquelle, effectivement, toutes les banques françaises.
Vous voyez, les banques.
Les grandes banques françaises, à l'heure d'aujourd'hui, ne proposent pas de produits de financement islamique. Les grandes banques françaises, vous avez quelques petites banques.
Il n'y a pas HSBC qui a à un moment donné
HSBC, fait une tentative. C'était plutôt au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, D'accord. mais pas en France. Mais je sais que quasiment les grandes banques françaises ont étudié le sujet. Elles ont compris la complexité du sujet et comme quoi c'était fondamentalement différent de la finance classique. Donc il fallait investir dans des systèmes informatiques, il fallait investir dans la formation, investir dans la communication. Et c'est là que pour elles le plus gros problème se pose, c'est une grande banque française qui va faire un produit islamique. On est encore en France.
Ça fait peur.
Il y a des gens qui réfléchissent à ça. On peut dire éthique, voyez.
Voilà, tout à fait. Mais
on n'a pas utilisé le terme islamique. On n'a pas à l'utiliser. Je le rappelle qu'il n'y a pas de finance islamique. C'est un produit qui est halal, c'est tout. Il est halal, c'est tout.
Abdelali, mondialement, l'appellation c'est Islamic Banking.
Ouais, mais c'est du marketing. Disons que appelons un chat, c'est pour faciliter le placement du produit.
C'est vrai que dans le monde anglo-saxon, l'expression islamique ne fait pas peur. ça fait peur aujourd'hui, surtout en France. C'est vraiment là où il y a une psychose. Dès qu'on parle du mot islam ou islamique, ça fait peur.
Pas qu'en France.
On imagine tout de suite le terrorisme derrière, l'invasion de. On veut tout islamiser. On veut islamiser la France, l'économie de la France. Non. C'est mieux. Et en plus, moi, je trouve que c'est pas du tout approprié. On n'a pas besoin d'utiliser le terme islamique. On dit tout simplement qu'il est compatible avec. Et qu'il est halal, tout simplement.
On pourrait effectivement
bah, halal,
aller dans ce sens-là.
Halal, c'est pas mieux. Hein.
Non, mais halal, ça veut dire licite, quoi. Il est licite.
Oui. Une fois je discutais avec un député, pas en France, mais dans un autre pays du Maghreb, où on parlait justement de la problématique de la sémantique. Pourquoi finance islamique ?
C'est important, oui.
Et pourquoi pas autre chose ? D'ailleurs, au Maroc et en Algérie et dans d'autres pays, on n'appelle pas ça la finance islamique, on appelle ça la finance participative ou la finance alternative. Et il disait une chose très intéressante, il disait, de toute façon, une banque, c'est une banque.
Oui.
Pardon. C'est des actionnaires, c'est des acteurs privés. Si la banque, elle échoue, on va dire c'est l'échec de l'islam. Banque islamique, si elle échoue, on va dire c'est l'échec de l'islam. Mais si elle réussit, on va dire c'est la réussite de l'islam. Alors qu'en réalité, ça reste du business, ça peut gagner tout comme ça peut perdre. Donc effectivement, le fait de préserver l'islam à côté de finance, quelque part, vous avez tout à fait raison, l'imam, M. Abdel Ali, c'est de préserver la religion. Parce qu'un produit financier, ça marche ou ça marche pas. On reste dans du commerce. Mais maintenant, bon, c'est une appellation, j'ai envie de dire, qui facilite un peu la commercialisation des produits. Donc, quand vous parlez de finance islamique, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, mondialement, on parle d'islamic finance ou d'islamic banking.
Mais Boukhar, vite fait, pour répondre à la question de Philippe, où est-ce qu'on peut acheter quelque chose en étant
aujourd'hui
compatible
en France, vous avez pas beaucoup de banques. Vous avez la Chaabi Bank, je pense que tout le monde connaît. On est dans une radio maghrébine, donc
c'est la banque populaire marocaine,
c'est une banque marocaine, d'origine marocaine, mais qui s'adresse à toutes les musulmans, enfin même non musulmans. On fait pas de discrimination par rapport à la religion, qui propose trois produits intéressants. Deux produits de dépôt, donc un compte courant halal, là je peux le dire, un compte courant halal, parce qu'on sait que le compte courant dans les banques classiques n'est pas halal.
Il n'y aura pas d'intérêt.
Pas d'intérêt, pas seulement. La banque utilise l'argent du déposant dans des activités halal. Mm-hmm. C'est ça qui est important.
Ouais, parce que si elle prend, elle te dit, je te donne pas d'intérêt, mais moi je fais ce que je veux avec ton pognon.
Moi je prête à des gens qui font de l'alcool, je prête à intérêt, etc. C'est un vrai problème.
J'ai prêté à monsieur Olida.
Et elle propose.
Olida, c'est qui ?
Pas Olida, c'est lui qui fait des. Bon. Des pâtés.
Ah oui, tu parles, d'accord.
Et elle propose également donc, un autre produit d'épargne, épargne halal aussi, mettre de l'argent de côté de façon halal, et un produit de financement immobilier sur lequel on reviendra certainement tout à l'heure, qui est la Mourabaha immobilière.
Bon, alors on parle de finance, éthique, participative, alternative, de tout ce que vous voulez, en tout cas on en parle, et essayez de caler vos questions et profiter de la présence de Boubker. On vous donnera du temps d'ailleurs pour les poser, parce que vous étiez très nombreux à interroger l'imam sur la façon aujourd'hui de financer des emprunts. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Allô l'imam ? Reviens dans un instant. Beur FM, 20h-21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon.
C'est l'imam qui est à la caisse ce soir. Hein. On parle de finances islamiques, compte de dépôt, assurance vie, livret d'épargne, participation, emprunt. Vous posez toutes vos questions à Boubker Hajdir ce soir, à directeur des activités du groupe IFAAS, comment on dit ?
IFAS.
IFAS, voilà. Islamic Finance Advisory and Assurance
IFAS,
Service.
On peut vous contacter pour être orienté pour un produit financier halal ?
Non, nous, en fait, on ne travaille pas avec les clients
les particuliers.
Nos clients, ce sont les banques et les sociétés d'assurance. En fait, nous, on les aide à mettre en place les produits financiers islamiques. Voilà, tout à fait. On les accompagne.
Aujourd'hui, vous essayez de. Par exemple, auprès de quel organisme pour pouvoir avoir.
Aujourd'hui, on travaille notamment avec Chaabi Bank.
Chaabi Bank, celle dont on a parlé tout à l'heure.
On travaille avec d'autres banques dont on ne peut pas citer les noms pour des raisons de confidentialité pour l'instant. Mm-hmm. Mais voilà, il y a surtout sur des produits de placement notamment. Et il y a d'autres banques aussi, comme la Bred, qui ont un produit de placement.
La Bred, c'est la banque populaire, ça.
Oui, Bred, qui n'est pas très loin d'ici, là. Ils ont un produit de placement en actions qui
est
chez
partout,
les
Bred, la banque populaire, elle est partout.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Voilà.
Ils communiquent pas
trop de publicité sur leurs produits pour des raisons qui leur sont propres.
Enfin, en one-to-one, j'imagine que quand vous êtes dans le bureau et que vous avez 200 000 euros sur votre compte.
Ouais, et c'est vrai que si aujourd'hui ils criaient sur les toits qu'ils encourageaient la finance islamique, et effectivement, il y aurait peut-être beaucoup de clients qui changeraient de banque rien que parce qu'ils ont Ils sont dans, parce qu'effectivement, il y a une islamophobie latente dans la population qui fait que rien que, à partir du moment où on encourage quelque chose qui a un rapport avec l'islam, tout de suite, on gagne des clients, certes, mais on en perd d'autres.
On risque d'en perdre d'autres.
Le risque est très important.
Voilà, c'est un risque.
Parce qu'il y a une méconnaissance de l'islam qui est très forte, qu'on assimile forcément l'islam au terrorisme, à la violence, tout ça.
Alors, profitez de la présence de notre expert pour lui poser des questions. Direction Toulouse, c'est Ménel qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan Ménel.
Oui, bonjour. Moi aussi. Ça va.
Est-ce que le trading, c'est halal?
Ça, c'est une bonne question. Le trading sur quoi? Ça dépend, il faut préciser votre question.
Le trading à la bourse, là.
Oui, mais sur quoi, précisément en bourse? Sur des actions? Sur quel type de produit votre question se porte?
C'est-à-dire que ça coupe, en fait, Ménel.
On ne vous entend pas très bien, Ménel.
Vas-y, détaille.
Alors, investir ou faire du trading sur des actions en bourse, c'est halal sous certaines conditions qu'il faut connaître. Donc, on ne peut pas acheter et vendre des actions sur des secteurs d'activité qui sont illicites. Ça, c'est évident.
Oui, mais comment on peut savoir?
Vous savez, il ne faut pas acheter des Heineken si c'est coté en bourse. Il ne faut pas acheter des actions Heineken, des actions des banques, il ne faut pas les acheter.
C'est la 64, voilà.
Non, mais en fait, c'est très technique. Ça ne suffit pas en fait, de s'arrêter juste à l'activité de l'entreprise. Il y a d'autres secteurs, d'autres critères qu'il faut connaître. Donc, si vous êtes financière, il faut regarder le secteur de l'endettement, le secteur de la liquidité, le ratio des créances, pas le secteur, pardon, les informations qui concernent l'endettement, la liquidité et un certain nombre d'autres informations financières. Conclusion, quand on est tout seul et qu'on n'est pas accompagné, c'est pas facile à faire. Donc voilà, faire du trading en bourse, c'est pas interdit, mais il faut le faire de façon...
Moi, par exemple, je fais des études en finance, et donc je connais, j'apprends et j'apprends...
Ça suffit pas en fait, parce que les actions, quand elles sont cotées, il y a un certain nombre d'informations qui sont pas forcément publiques. Et donc il y a que les professionnels ou qu'un certain nombre d'outils, de logiciels, dans lesquels on peut trouver ces informations-là. Et quand on n'a pas accès à ces outils, on n'a pas accès à l'information.
Est-ce que la majorité des produits sont halal ou non?
Du trading?
Oui.
Non. Non, au contraire.
Pourquoi beaucoup
de produits, beaucoup de produits qui s'appuient sur des intérêts, comme des obligations, des produits monétaires, qui sont essentiellement basés sur de l'intérêt.
Bien sûr.
Et après, il y a des produits qui sont purement spéculatifs. Sinon, sur les actions, c'est possible, mais il faut être bien encadré.
Zora est avec nous. Merci, Emmanuel, pour votre question. Zora, bienvenue. Bonsoir, bon ramadan.
Oui, bonsoir, merci bien. Salam alaikum à tous.
Alaikum salam.
Alors, donc, ma première question, j'ai deux questions. Elles concernent toutes les deux ma mère. Je suis en charge de la gestion de ses comptes. Alors, première question. Elle a un compte en Algérie et plusieurs comptes ici en France, dont des comptes courants. Mmh. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle soustrait les intérêts et puis elle s'en débarrasse. En fait, elle ne le compte pas comme une sadaqa parce qu'elle sait pertinemment que c'est haram, mais elle s'en débarrasse. Mmh. Est-ce que pour autant ces comptes-là sont halal ou deviennent haram du fait qu'à un moment donné, il y a eu un mélange?
Alors, vous parlez des comptes en France, on est d'accord?
En France et en Algérie aussi, parce qu'en Algérie, ils contractent automatiquement dans les comptes courants des intérêts.
Alors, en fait, donc je vais répondre sur les deux pays, parce que je connais les deux. En France, si votre maman a la queue de l'argent qui dort sur son compte, je vous recommande plutôt d'aller justement vers Shabi Bank, par exemple, qui propose un compte, deux comptes. Un compte courant halal et un compte épargne halal. C'est de l'épargne non rémunérée, vous mettez de l'argent de côté, il n'y aura pas d'intérêt et vous avez la garantie, c'est écrit noir sur blanc dans la convention de compte, que la banque Shabi s'engage à ne pas utiliser l'argent des déposants dans des activités haram. Et c'est même dans la convention de compte, c'est marqué noir sur blanc, qu'elle se fait auditer, surveiller et contrôler par un comité de conformité à la charia. Donc déjà ça vous règle le problème de l'argent qui dort.
Question, parce qu'elle a aussi une assurance vie. Donc, c'est moi qui me suis chargée de lui contracter auprès de la Bred, justement, une assurance vie avec un ratio de base fixe et un ratio d'action.
C'est problématique aussi parce que le contrat d'assurance vie.
Les gens comprennent la ratio, tout ça, là.
C'est un peu d'action et un peu de produits de placement. Une partie, sur certainement de l'obligataire parce que c'est un revenu fixe.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce contrat d'assurance vie?
Un contrat d'assurance vie, ce qu'a fait notre sœur pour sa maman, c'est qu'elle met un peu d'argent de côté régulièrement. de manière à ce que pendant 5 ans ou 8 ans, ça dépend de la durée que vous avez souscrit, vous avez aussi des avantages fiscaux. C'est que au bout de 5 ans ou 8 ans, si la maman, alhamdoulilah, elle est toujours là et on lui souhaite une longue vie, elle va récupérer son argent plus les intérêts et les profits qu'elle aura générés. Mais si la maman elle rejoint Allah subhanahu wa ta'ala, le contrat d'assurance vie, c'est marqué dedans qu'il y a des bénéficiaires, donc ses enfants ou d'autres personnes qui vont récupérer ce capital et les intérêts et le revenu qu'il aura généré. Le problème, c'est que dans un contrat d'assurance vie classique, là aussi, on a des intérêts, on a une garantie de revenus à l'avance. Et en plus aussi, l'assureur, voilà, il place cet argent dans des activités ou des produits qui sont illicites. Donc
l'assurance vie, ce n'est pas halal aujourd'hui. Tel qu'il est proposé.
Celle qui a été mentionnée là, non. Il y a des produits d'assurance vie qui existent sur le marché. D'ailleurs,
Mais le principe de placer de l'argent dans une banque et verser tous les mois, le principe, je parle du principe, hein, et puis de sans qu'il y ait des intérêts. Si moi je place de l'argent et puis qu'à la fin de cet argent, ce capital que j'ai petit à petit accumulé au bout de certain nombre d'années, et qu'il soit reversé à mes héritiers, ça c'est halal. Le principe,
bien
il
sûr,
est halal.
Bien sûr.
Maintenant, ce qui est aujourd'hui, moi, ce que je vois beaucoup dans des contrats d'assurance vie, c'est je verse 20 euros, 50 euros tous les mois, et quelle que soit l'heure où je meurs, ou la personne qui a contracté, eh bien, mes héritiers toucheront une somme fixe.
C'est ça.
20 000, 30 000, 50 000, je ne sais pas combien. Ça, c'est pas halal.
C'est ça. En fait, il y a un principe qui est simple en finance islamique, ou enfin, dans le droit musulman, c'est que si dès l'instant que je veux que mon argent me donne de l'argent, je dois accepter une part de risque. Mais je dois accepter un risque. Et donc, si le contrat de placement qu'on me propose me garantit dès le départ que je vais récupérer et mon argent et le profit, donc il n'y a plus la notion de risque. Et donc là, on tombe dans le riba, dans une forme de riba. C'est comme si j'ai prêté mon argent à l'assureur et il me rend mon capital et les intérêts qui vont avec. Donc il faut plutôt aller vers des produits d'assurance vie qui sont islamiques. Bon.
Est-ce qu'il y en a justement des produits?
Il y a eu. Alors comme moi, ça fait quelques années maintenant que je travaille beaucoup sur l'étranger. Je ne sais pas s'ils sont toujours commercialisés, ces contrats d'assurance vie. Mais à un moment donné, il y avait Swiss Life qui proposait un produit d'assurance vie. Mais voilà, il y a d'autres acteurs qui sont en train aujourd'hui de travailler et mettre en place des produits d'épargne et de placement. Voilà.
Merci Zora. Ossine est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bon Ramadan, Ossine.
Oui, bonsoir, salam alaikum.
Alaykoum salam.
Voilà, j'avais une petite question en fait par rapport à Charbibank, parce que j'ai entendu qu'ils avaient des comptes halal, mais à côté de ça, ils avaient aussi des comptes normaux, on va dire des comptes classiques.
Oui.
Et le fait qu'ils traitent les deux, est-ce que c'est pas haram d'aller voir quelqu'un qui traite les deux ou...
Ouais, c'est comme si qu'on avait une boucherie, où le boucher vous dit, tiens, voilà, ça c'est de la viande halal, et puis là, ils vendent la viande, du cochon et tout ça. Est-ce que
c'est le cas dans les grandes surfaces? C'est le cas dans les grandes surfaces.
Ouais, tu vas me dire.
C'est le cas dans les grandes surfaces.
Dans les grandes surfaces, la viande halal est estampillée. La viande, elle est estampillée et elle appartient à une société. C'est pas tout à fait pareil.
En fait, elle est dans un emballage.
Par exemple, c'est pas Carrefour lui-même. C'est pas le Carrefour elle-même qui vend la viande.
C'est un tiers.
C'est un tiers parce qu'il y a l'estampillage et il y a l'emballage.
Alors oui, pour rassurer le monsieur, effectivement, dans Charbibank, elle a fait le nécessaire pour que les deux activités soient séparées. Donc c'est que l'argent du déposant, c'est comme je disais tout à l'heure à la précédente auditrice, c'est que la banque s'engage dans la convention de compte, donc dans votre contrat qui vous relie à la banque, à ne pas utiliser votre argent dans une activité qui n'est pas conforme à la finance, enfin à l'islam. Donc il y a une vraie séparation entre l'activité classique et l'activité islamique qui est proposé par cette banque. Donc il y a un engagement contractuel, hein, c'est pas du blabla. Hein. Si elle respecte pas les règles du jeu, vous pouvez la poursuivre, elle peut se faire condamner parce qu'elle ment dans le contrat, ce qui est juste pas possible dans le contexte français.
Comment on peut vérifier? C'est confidentiel les transactions qu'elle mène derrière.
Il suffit de lui demander, je sais pas moi, le rapport à la fin de l'année, le rapport annuel, et vous allez voir comment elle utilise son argent. Si vous êtes client, vous avez le droit à
connaître le rapport financier.
Tout à fait. Tout à fait.
Bon, merci pour cette réponse.
Merci Ossine pour votre question.
Merci pour votre appel.
À bientôt. Amine, vous êtes à Paris au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue. Bon Ramadan, Amine.
Oui, bon Ramadan à vous aussi. C'est halal pour un Algérien d'aller dans une banque marocaine, hein?
En voilà une drôle de question.
Quand il rentre dans la banque, il faut qu'il crie 1, 2, 3.
Avec un drapeau derrière.
3, 2, 1, retour à Waran.
Voilà, 3, 2, 1, retour à Waran. Si tu cries ça dans la banque, ça va. Là, ça veut dire que c'est bon.
On va te dérouler un tapis rouge et vert.
D'accord.
Non, je pense que. Marhaba bihoum, je n'ai jamais vu.
Ça me
ça me titillait, je disais, c'est de la sorte.
Alors, ma question, je vous rassure, hors antenne, on a posé la question aussi. Hein, je vous rassure, donc voilà.
Bon, bah, super. Alors, j'ai une question.
Yahya al-Maghrib al-Arabi.
J'ai souhaité, il y a un moment, de racheter les crédits immobiliers que j'ai. Parce que effectivement, j'avais eu une question avec l'imam il y a 3-4 ans, et effectivement, il m'a dit que c'est pas trop top. Effectivement, j'ai pas trouvé d'établissement qui peut me racheter mes crédits, en fait. Et ma question, il y a deux questions, en fait. Je voulais savoir, de toute façon, même si on a de la banque halal, est-ce que on sera soumis aux mêmes critères, les 33% d'endettement et les mêmes?
Bien sûr.
Pas. Oui. La deuxième chose, je vais avoir le leasing. Est-ce que c'est halal ou pas?
Ok, alors plusieurs questions. Alors oui, l'Algérien peut aller chez Abiban, ça c'est bon, on n'en parle plus. voilà. Le rachat de crédit...
Sur le ratio, donc...
Alors je recommence par le rachat de crédit. Ouais, ouais. Le rachat de crédit, techniquement, c'est faisable, mais c'est un peu trop compliqué au niveau fiscal, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun établissement qui le propose. Si vous voulez sortir de vos crédits ribaoui, il faut vendre vos biens et repartir sur des financements islamiques. Voilà. Et la troisième question, c'était, est-ce que oui, les critères d'éligibilité, bien sûr que la banque va également regarder combien vous gagnez, et si vous êtes déjà trop endetté, elle va pas vous faire un financement islamique, parce que elle ne pourra pas le faire, et ce sera pas dans votre intérêt, parce qu'à un moment donné, vous allez plus pouvoir payer, et c'est vous qui allez avoir des problèmes. Donc oui, les critères d'éligibilité, notamment le tiers, 33% d'endettement. Rares sont les banques qui le dépassent, ou quand on le dépasse, c'est de très peu, ou alors c'est parce qu'on connaît très très bien ce client-là.
D'accord. Et pour le leasing alors?
Ah oui, le leasing. Alors, le leasing.
Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le leasing, pour que les auditeurs comprennent?
Le leasing, c'est de la location avec option d'achat, pour faire simple. Donc il existe le leasing pour les particuliers, donc c'est
on loue un véhicule avec à terme la possibilité de racheter le véhicule.
Voilà, tout à fait. Pour les professionnels, on a le crédit bail. Donc le concept du crédit bail et du leasing est islamique. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans les contrats qui sont proposés par les établissements qui le font, il y a plein de clauses qui font que le contrat n'est plus islamique, notamment les clauses de responsabilité et des clauses d'intérêt. Donc le concept, oui, mais les contrats qui sont proposés ne le sont pas.
On reviendra sur les contrats de leasing tout à l'heure. Merci Amine pour vos questions. D'autres questions dans un instant, profitez-en. Les comptes de dépôt, les assurances vie, les rachats de crédit, les assurances, les emprunts. Profitez de la présence de Boubker Hajdir ce soir pour lui poser toutes vos questions.
Allô l'imam, reviens dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon.
Allô l'imam au 01 53 48 3000 et vous posez ce soir vos questions à l'imam Abdelali Mamoun et à Boubker Hajdir qui est directeur des activités du groupe IFAS, spécialiste de la finance islamique dont vous en profitez pour lui poser toutes les questions que vous avez. Et nous allons dans le nord de la France, c'est Assina qui nous appelle. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan Assina.
Merci.
Salam alaykoum, rahmatullah wa barakatuh. Naam, on vous écoute.
Naam, Salima. Est-ce que c'est, conseillez-moi, est-ce que c'est bien de laisser l'argent, les intérêts à la banque, ou bien je prends l'argent et je donne mes dons comme ça d'accord, bien sûr. Conseillez-moi.
Alors, je vais vous donner un conseil de frère. Moi, je ne suis pas moufti, oui. Je ne suis pas imam, donc tout ce qu'on sait, tout ce que je peux vous dire, c'est que les intérêts sont haram et il faut s'en débarrasser. Voilà, maintenant, je crois que c'est même pas, il n'y a même pas la notion de sadaqa derrière.
Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qu'une personne a dit non, moi, je n'espère pas de récompense le fait de me débarrasser de riba. C'est faux, on peut espérer une récompense pour justement ne pas succomber à la tentation de consommer ce qui est haram. Hein, le prophète, alayhi salam, dit, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Celui qui a l'intention ou qui a la possibilité de commettre un péché, qui ne le fait pas et qui s'abstient, qui se retient de le faire, notamment celui qui se débarrasse des ribas, il se retient de commettre le péché, de consommer l'usure. Eh bien, kutibat lahu hasana, dit le prophète, il lui sera compté comme une bonne action. Donc, il ne faut pas dire que le fait de se débarrasser de riba, on n'est pas récompensé. On est récompensé.
Oui.
Par l'abstinence de commettre le péché.
Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire de mieux les laisser à la banque et voilà, ou bien je repose encore une fois ma question.
Le mieux peut-être c'est de pas ouvrir un compte à Libawi. Voilà, le mieux peut-être c'est de ne pas ouvrir un compte à Libawi. Maintenant que vous savez que le riba c'est haram. Voilà, si vous avez déjà un compte Libawi.
5 millions de musulmans en France, ils font comment là? Je crois qu'il y a peut-être en millions des comptes musulmans.
Ils ont qu'à ouvrir des comptes sans riba, c'est quoi le problème?
C'est-à-dire, dans une banque classique, c'est quoi un compte sans riba?
C'est un compte à vue, un compte courant classique.
Un compte courant, voilà, un compte courant. C'est pas un compte épargne.
Voilà, le moindre mal, c'est ça. À défaut de pouvoir aller chez Shaabi Bank qui propose un produit halal, un compte courant halal, c'est trop loin, c'est trop compliqué ou je ne sais quoi, on peut rester dans
sa
banque.
Donc tous les livrets A, livret C, livret B, je ne sais pas quoi, tous ces livrets LEP, LEP, épargne logement, tout ça.
Je pense que l'astuce est claire.
Voilà.
Hein
voilà. Là, on bloque de l'argent, donc c'est haram.
On peut bloquer de l'argent sans que ça génère des intérêts.
Alors, on va revenir, parce que la question est intéressante, c'est qu'il y a cette idée qui dit que si on sort les intérêts et qu'on les donne, ça nettoie les intérêts.
Non, ça nettoie le capital.
Mais est-ce que c'est bon ou ça? Est-ce que
non,
la
ça
règle
nettoie, non, ça nettoie le capital.
Mais est-ce qu'elle est bonne
la règle,
la règle,
l'imam, je pense, peut la dire mieux que moi, mais je pense que quand on se rend compte qu'on a fait un péché, il faut arrêter le péché, se débarrasser de ce que ce péché a généré, mais il faut pas continuer dans le péché.
Il faut pas perdurer
dans le péché. Donc
normalement, tous les comptes épargne qui rapportent dans l'un doivent être fermés et on ouvre à la place des comptes courants. Ça, c'est le moindre mal, n'est-ce pas?
Voilà.
Donc, voilà.
Puisque de toute façon, après, il y a aussi un autre avis qui dit que les intérêts, c'est l'argent public. Alors, au lieu de le jeter, il faut le donner à des œuvres caritatives. Après, ça, c'est notre appréciation.
Moi, je voudrais savoir juridiquement qu'est-ce qu'il est dit. C'est juste ça.
Non, dans la loi musulmane, les intérêts, à partir du moment où on s'en débarrasse et qu'on les donne, alors c'est pas forcément aux pauvres. On peut les donner, à un organisme social, humanitaire, etc., et qui construit des puits ou qui fabrique ou qui construit.
Et les arbres, ça marche? Qui plante des arbres?
Très bien. Voilà, allez. Par exemple. Voilà.
Allez, on plante des arbres.
Des tiques.
Ça pousse.
Ça sera des arbres Liba, oui.
Voilà.
Les arbres de la Liba.
Voilà.
Délusion. C'est-à-dire que l'arbre, quand il va pousser, qui va donner des fruits, Philippe, t'auras pas le droit de les manger. Non, je plaisante.
C'est des mangroves. Ça fait des fruits. Le chef voilà fait des trucs avec, en plus. Ouais, ça fait des fruits.
Non, mais il y a plein de gens qui ouvrent plusieurs comptes courant pour leurs enfants, qui génèrent pas d'intérêt.
Hassan, 01 53 48 3000, vous avez une question à poser, soyez le bienvenu. Bon Ramadan.
Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Monsieur Boubacar, bonsoir à Monsieur Imam.
Bonsoir.
Moi j'ai deux questions à vous poser et je souhaite que ce sera une réponse nette et propre. Alors j'ai mon frère en Algérie, il a acheté une voiture. Je ne vais pas dire la publicité de la marque. Comment ça s'appelle? Il travaille avec une banque musulmane là-bas.
Oui. Alors, c'est la banque Al-Baraka, c'est ça?
Je ne sais pas comment, je vous assure. C'est une banque musulmane, je ne sais pas. Mm-hmm. Moi, le problème, parce que je suis son frère, j'habite en France, je n'ai pas compris. La voiture, elle coûte 160 000. Ils ont acheté la voiture chez le concessionnaire. Mon fils a la voiture. Et mon fils, maintenant, il donne à la banque 170 millions. Pour moi, c'est des ribas à vivre.
Bah oui, bien sûr, là. Il n'y a pas photo, là.
Non,
quand j'ai demandé à mon frère là-bas, il m'a dit non, c'est pas du ribas, ça.
Non, non, effectivement, c'est pas du riba. C'est pas du riba parce que la banque.
Il t'a emprunté 160 000.
Non, la banque, si on parle des banques islamiques algériennes, la banque achète la voiture.
Ah, elle achète, elle revend à 170 000.
Elle devient propriétaire de la voiture. Voilà. Il y a même, en fait, en Algérie, vous avez deux banques.
Ça, c'est du commerce.
Deux banques privées et d'autres banques aussi qui sont en train de développer la finance islamique. Même les banques publiques sont en train les autorités algériennes, d'une manière générale, sont en train de faire le nécessaire pour que la finance islamique se développe en Algérie. Mais depuis 30 ans, vous avez une banque islamique qui existe depuis 30 ans et une autre qui a à peu près une dizaine d'années. Vous avez le Banque Al-Baraka et Salam Bank. Salam Bank, par exemple, elle achète les voitures à l'avance.
Elle les achète
à l'avance à un prix et elle les revend plus cher parce que la demande de véhicules en Algérie, elle est tellement grande qu'elle peut se permettre d'acheter 100 voitures à l'avance et elle sait que...
Elle les vend à terme, vente
avec facilité de paiement.
Monsieur Boubacar, excusez-moi, ce n'est pas qu'elle a acheté plusieurs voitures. Cette banque-là, et c'est eux qui ont payé le concessionnaire et mon frère, et après ils l'ont vendu à mon frère.
Tout à fait. Donc, ils ont acheté la voiture. Ils sont devenus propriétaires de la voiture. La banque a acheté la voiture.
Et elle l'a revendue.
Elle est devenue.
Moi, pour moi. Excusez-moi, je ne sais pas pour vous. Moi, pour moi, c'est des intérêts.
Non, voilà, bah, c'est comme les mouchriquines, quand ils interpellaient le prophète, ils lui disaient mais le bay' ou mettre le riba. Wa qalu innama al-bay' ou mettre le riba. Qu'est-ce que Dieu l'a répondu, rétorqué, a dit in wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. À partir du moment où il y a une transaction commerciale, on n'est plus dans le riba. Et comme je citais tout à l'heure dans le verset, la takulu amwalakum baynakum illa an takuna tijaratan an taradin. Madame anna hunak tijara, il y a une transaction commerciale, Dieu est clair, illa an takuna tijaratan an taradin baynakum. Akhouya, anta ta'arad kalam Allah azza wa jal, tu dis non, c'est riba. Ou le blan, il dit là, c'est pas riba.
Monsieur l'imam, j'ai compris, mais pour moi, c'est du riba. Pour vous, non, mais pour moi, c'est
pour, donc, pour Allah, c'est pas riba, et pour toi, c'est riba, c'est ça.
Non.
Bah, très bien, si tu as envie de contrarier Allah Azza wa Jal, c'est toi, tes risques et périls.
C'est pas grave. C'est une question que je vais poser, c'est pas grave. La deuxième question.
Allez-y, on vous écoute.
La deuxième question, il y a mon fils ici, en France, il voulait acheter une maison, il voulait prêter à la banque. Est-ce qu'il a le droit, si du riba, c'est pas des.
Bah, s'il emprunte à la banque, oui, c'est du riba.
Acheter un toit, pas une voiture, ni rien, un toit.
Oui, emprunter pour acheter une voiture, une maison ou un ordinateur, oui. Tant qu'on emprunte, oui. Et avec intérêt, oui, c'est ce qu'on dit, c'est oui. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui,
c'est pas grave. Mais tous les imams, ils ne parlent pas là, ils disent la vérité, parce qu'on ne comprend rien du tout. Une fois, j'ai entendu un imam, il a dit, pour acheter un toit, c'est halal.
Ah, d'accord. Vous faites allusion, ouais. En fait, à la fatwa du Conseil européen de la fatwa.
Voilà, c'est pour ça. Et maintenant, je ne sais pas, les masses.
Alors, en fait, peut-être pour préciser les choses.
Alors, ils ne disent pas que c'est halal.
Ouais, ils ne disent pas que c'est halal. Ouais.
Ils disent que c'est permis parce que c'est une nécessité qui fait loi. Et parce que chaque être humain a le droit d'avoir un toit. Donc, étant donné comme c'est une nécessité, ce qu'on appelle ad-darura allati tubihu al-mahdhura. Mais il n'a pas dit que ça, c'est comme t'es dans le désert. Tu vas mourir de soif. Il y a une bouteille de vin. Est-ce que t'as le droit de boire le vin pour sauver ta vie et pas mourir de soif?
Oui, c'est pareil.
Mais est-ce que nous, là, on est dans le désert? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas de toit à proposer en location pour être obligé d'aller acheter une maison à crédit? On a aussi la location. Donc, on n'est pas dans la nécessité qui fait loi.
Monsieur l'imam, là, mon fils, il a 31 ans, il est avec moi, il voulait faire un foyer, il veut se marier, il veut acheter une maison. Il ne veut pas prendre un appartement en location, il veut l'acheter.
Il veut, Dieu il veut, et toi tu veux, tu as le droit de faire vouloir ce que tu veux, mais Dieu, il veut pas que tu fasses du crédit.
Non, il peut faire par un financement islamique, il peut aller...
Non, mais pour l'instant, le fait d'acheter une maison en utilisant les contrats classiques de banque, eh bien, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Toi, tu veux, c'est ton problème, mais Dieu ne veut pas.
Je ne comprends pas les autres imams. Moi, j'ai posé, il m'a dit halal, une nécessité, il voudrait un droit. Il a le droit.
Moi, je te dis, qal Allah, et toi, tu te dis, ton imam, il a dit. Bah, écoute, frère.
Non, mais c'est l'imam.
Moi, je te dis, qal Allah.
يا
أيها الذين آمنوا لا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى كم ينفرسي تبشتسيت قال الله تدخل الإمام لدي
نعم ما تبنيش تواتم ديسا إلي زوت إمام بس دي منطقة لو.
Non, mais il faut peut-être juste...
Il te parle de nécessité.
Il faut peut-être expliquer la fatwa qui a été édictée par le Conseil européen de la fatwa.
C'est nécessité, je l'ai dit. C'est parce qu'il y a nécessité, c'est tout. Il ne parle pas d'autre chose.
C'est nécessité. Il voulait acheter un appartement. C'est trop petit chez moi. Il voulait acheter.
Eh bien, il va louer plus grand ailleurs. Pourquoi il doit acheter plus grand ailleurs? Pourquoi il est obligé d'acheter?
Non, mais
il peut louer ailleurs plus grand.
Il peut combien votre enfant, il travaille, monsieur? Votre fils, il travaille.
Il est médecin.
Ah, ben, mashallah. Donc, il peut très facilement acheter de façon islamique.
Non, c'est mal, parce que moi, j'ai des enfants qui sont de cette dîner, tout ça. Il ne veut pas être riba, tout ça.
Alhamdulillah.
Il voulait acheter quelque chose. Il ne veut pas louer. Il m'a dit, papa, tu vois ça.
Il est médecin.
Tu es en France, t'es content que tu es en location.
Alors, votre
gars qui l'a jeté l'argent par la fenêtre, voilà.
Votre
ce qu'ils
fils,
appellent eux, quand il est locataire, c'est jeter de l'argent par la fenêtre.
Non, il peut faire un financement. Votre fils, demandez-lui de rechercher sur Internet financement immobilier Murabaha. Et étant donné sa situation professionnelle, il va très facilement acheter de façon halal
sans aucun problème.
Mourabaha. Immobilier, Mourabaha. Exactement. Voilà, wafik baraka.
Mais les autres immeubles, c'est pas la femme qui parle à la radio qui nous raconte n'importe quoi. Voilà. Allez,
salam alaykoum, salam.
Merci, Hassan.
Merci pour le compliment.
on reviendra sur les solutions qui existent, hein, effectivement, pour les gens qui veulent investir dans de l'immobilier. On va changer un petit peu le programme ce soir, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions. C'est vrai que Booker est là ce soir exceptionnellement. Donc, on va vous garder, on va poser des questions, on va essayer de répondre à un maximum de questions, puisque vous êtes nombreux à vouloir vous renseigner. Et c'est vrai qu'en la matière, il y a plusieurs fatwas qui existent, il y a des choses qui est avec Internet, qui se diffuse aussi. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes parfois un peu perdu et c'est normal, Booker. On peut dire que ce n'est pas toujours simple.
Alors oui, c'est vrai que cette fatwa qui existe depuis maintenant une trentaine d'années, elle continue de semer un peu la confusion dans l'esprit des gens. Il faut juste la remettre dans son contexte. Cette fatwa, c'était dans les années 90 où effectivement la question a été posée à certains savants.
Notamment Cheikh Youssef El-Qardawi.
Notamment, voilà, de Cheikh El-Qardawi et bien d'autres. Où, à l'époque, je me rappelle, moi, enfin, c'est pas moi qui ai posé la question, mais on a remis un rapport à ces ulama en dressant la situation dans laquelle vivaient les musulmans dans certaines cités françaises. Et donc, dans ce rapport, dressait un visage noir de la vie des musulmans dans les cités françaises.
Dans les locataires, en tant que locataires.
En tant que locataires, dans des cités où il y a de la drogue, où il y a des armes, où il y a... Voilà, où la vie et l'éducation des enfants étaient en danger. Forcément, les ulama, quand on leur dit ça, ils disent, bon, bah, s'il n'y a pas moyen de vivre ailleurs en étant locataire, et que le crédit à intérêt, c'est le seul moyen de sortir de ces cités-là pour acheter et mettre ses enfants en sécurité, et encore, il y a plein de conditions, alors les ulama disent, bon, si c'est le dernier recours, allez-y. Mais avant d'y aller, il faut déjà aller voir sa banque, négocier avec sa banque, mobiliser les associations musulmanes pour qu'elles fassent du financement islamique, etc., etc. Ça, c'était dans les années 90. On est maintenant depuis 2011, et le financement immobilier Mourabaha existe. Il est en train de se développer de plus en plus. On est passé d'un financement de 5 ans à un financement maintenant jusqu'à 20 ans. Donc de plus en plus de profils de musulmans ont accès.
Facilité.
Voilà, de plus en plus de facilités aujourd'hui s'offrent aux musulmans. Donc théoriquement, le texte de la fatwa lui-même lui dit, quand il y aura des financements immobiliers halal, alors la fatwa n'a plus lieu d'exister.
On se retrouve de l'autre côté de l'heure et vous continuerez à poser vos questions à Boubker Hachdir, 01-53-48-3000. En attendant, ça sera beauté et sagesse de la voix prophétique, la chronique d'Ismaël Mounir.
Retrouvez Allô l'Imam tous les jours de 20h à 21h sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Le Secours Islamique France vous souhaite un ramadan solidaire. Le Secours Islamique France, l'expertise au service de votre générosité.